Un des grands enjeux de cette convention collective unique va être l'impact sur le statut social de l'entreprise. On peut d'ailleurs le voir de deux manières, hein, d'une manière contrainte, c'est-à-dire subie, de dire bah, il y a une nouvelle convention collective, oulala, attention, il faut que j'adapte mon statut social, ou on peut le voir de manière plus dynamique et plus ambitieuse. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle convention collective, effectivement. On va y revenir, ça va nécessairement impacter le statut social de l'entreprise ou du groupe. Et dans ce cadre-là, c'est l'opportunité de réanalyser mon dispositif conventionnel, de voir si à date il est à la hauteur des enjeux et des ambitions du groupe, à la hauteur des attentes des collaborateurs, puisqu'on sait aussi que dans certains métiers, il y a des enjeux de recrutement. Et donc, comment je me réaligne par rapport à cette nouvelle convention. Quel que soit le schéma, il y a des étapes incontournables. Pour réussir notre vision, c'est que pour réussir l'application de cette nouvelle convention collective, ces étapes sont d'abord, évidemment, un état des lieux du statut social de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il va falloir identifier si, un, au regard des nouvelles dispositions de la convention collective, votre statut social est conforme à ces dispositions ou non, et est-ce qu'il va devoir être adapté? Est-ce que dans certains cas, j'ai des garanties équivalentes ou non? Il va falloir que vous analysiez, que vous intégriez l'ensemble des nouvelles dispositions de la convention collective, puisqu'on y reviendra, certaines, on vous pourrait y déroger par accord d'entreprise. Donc, est-ce que ces nouvelles dispositions conviennent finalement aux ambitions et au fonctionnement de l'entreprise? Est-ce qu'il vous apparaît qu'il doit y être apporté des modifications, ce qui supposera de la négociation d'entreprise? Donc il faut aussi impérativement que tous les acteurs internes s'approprient l'ensemble de ces évolutions. Et puis la troisième étape, c'est le comparatif, c'est-à-dire comparer mon statut social d'entreprise ou mes statuts sociaux, hein, puisque comme le disait Philippe, la donne va être différente, entreprise unique ou entreprise à établissement multiple avec des statuts qui peuvent parfois varier fortement selon les établissements. Et une fois ce comparatif établi, bah, définir une stratégie sociale, définir une stratégie de négociation pour aboutir à l'adaptation du statut social de l'entreprise. Ce qui est important, c'est que l'état des lieux du statut social, ce n'est pas que les accords collectifs d'entreprise ou de groupe ou d'établissement, puisque ça, en général, c'est assez simple à cartographier. Après, il y a tout le travail d'état des lieux, mais il y a des dispositions qui sont parfois plus complexes, plus compliquées à aller chercher, les accords atypiques, les décisions unilatérales, les usages. On sait, hein, quand on travaille pour le compte de nos clients, que bon, quand on demande ce qui existe comme usage, engagements unilatéraux, ce n'est pas toujours une chose si facile. Et donc ça, il faut les analyser, d'autant plus que, j'y reviendrai tout à l'heure, en cas d'usage portant sur une disposition de la Convention collective nationale, nouvelle disposition, cet usage, s'il est moins favorable, tombera de fait, puisqu'un usage ne peut pas adapter une convention collective. Donc cette première étape, elle va vous permettre de cibler l'existant, de cibler les nouvelles dispositions de la convention collective et de déterminer ce qui est adapté ou non au modèle actuel de votre entreprise ou de votre groupe et ce qui doit être adapté ou modifié, mais également d'identifier, au-delà de ce qui est adapté au modèle, ce qui devra de toute façon être modifié compte tenu des nouvelles dispositions conventionnelles.
D'où l'importance sur ce type d'accord et en plus dans ces périodes qui vont être un peu transitoires de vos préambules. Préambule, c'est peut-être pas du droit, mais c'est ce qui cadre le droit des signataires. Donc vraiment, vous voyez, c'est des sujets sur lesquels il faudrait que vous soyez hyper, hyper attentifs, parce que comme le disait Aymeric, là, on va apprendre en marchant. Et je ne souhaite à personne parmi nous tous de faire partie de ceux qui vont faire la jurisprudence. Ça va être ça le sujet.
Et donc, cette option des dispositions, leurs modifications, doivent être étudiées au regard des dispositions légales relatives à l'articulation entre les conventions collectives de branche et les accords d'entreprise. Puisque, comme vous le savez certainement, selon la nature des dispositions, il est plus ou moins possible d'adapter les dispositions conventionnelles de branche par le biais d'accords d'entreprise. J'insiste sur par le biais d'accords d'entreprise, puisque ça exclut de facto toute adaptation qui serait moins favorable, évidemment, hein, par le prisme d'usage ou d'engagement unilatéraux. Hein. Donc ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Et donc, juste pour rappel, d'un point de vue juridique, les thèmes de négociation de branche sont répartis en trois blocs, selon une logique de primauté des domaines. Vous avez le bloc 1, le bloc 2, le bloc 3, pour faire très simple. Le bloc 1 contient 13 thèmes obligatoires, dont la PSC. Et là, les dispositions de la convention collective de branche prime de manière impérative et automatique sur les accords d'entreprise, sauf, et c'est l'exception qu'on vient d'évoquer à l'instant, lorsque les accords d'entreprise assurent des garanties au moins équivalentes, avec toute la difficulté afférente à la garantie équivalente. Vous avez le bloc 2, où là, il faut que la convention collective prévoie ce qu'on appelle une clause de verrouillage pour interdire finalement aux accords d'entreprise d'y déroger. Sauf garantie au moins équivalente, et il n'y a pas de clause de verrouillage à date dans la convention collective nationale, donc je le passe rapidement, c'était juste pour votre information. Et puis vous avez le bloc 3, qui est en fait tous les autres thèmes, où là, l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche, même si ces derniers sont moins favorables. Donc c'est là que vous avez la possibilité, dans le cadre de vos négociations, d'adapter les dispositions conventionnelles de la branche, si ces dernières ne vous apparaissent pas en cohérence avec les besoins de l'entreprise, avec votre stratégie sociale, etc., etc. Donc, vous voyez, il faut bien analyser au regard, finalement, du bloc 1 et du bloc 3. Et le plus compliqué est évidemment le bloc 1, avec cette logique de garantie équivalente, où nous, là, la recommandation, elle est claire, nette et précise. C'est qu'il faut que ce soit explicite dans vos accords, cette notion de garantie équivalente. Et le bloc 3, où là, il y a une possibilité de dérogation. Donc on vous a remis, j'y passe rapidement, la répartition des thèmes traités dans la CCN unique selon les blocs. Hein. Vous voyez le bloc 2, je n'y reviens pas, comme je disais, il n'y a pas de disposition particulière. Le bloc 1, on est principalement sur les salaires minima conventionnels, les classifications, les conditions et le renouvellement de la période d'essai, durée minimale de travail à temps partiel et la protection sociale complémentaire, où là, bah, l'accord de branche prévaut, sauf disposition d'accord d'entreprise avec des garanties équivalentes. Puis vous avez le bloc 3, donc je vais vous éviter la liste à la Prévert, où bah, les dispositions de l'accord d'entreprise peuvent valablement se substituer aux dispositions des accords d'entreprise. Donc on vous a une sorte d'arbre de réflexion à avoir selon les chantiers à mener sur les blocs donc 1 et 3. On a mis de côté le 2 pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Donc la première étape, comparatif CCN unique et accord d'entreprise. Je parle du bloc 1 hein, avec l'accord de branche impératif, sauf garantie équivalente. Si je n'ai pas d'accord d'entreprise sur ces thèmes, premier point, bah, j'applique directement la convention collective unique avec l'analyse que vous devez en faire, ou j'ai une autre possibilité qui est de négocier au niveau de l'entreprise pour définir des dispositions propres sur des garanties au moins équivalentes avec les précautions d'usage qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis vous avez une deuxième possibilité. Vous avez des accords d'entreprise qui portent sur tout ou partie des thèmes prévus dans la convention collective. Là, il faut réaliser une analyse pour déterminer si les accords contiennent au moins des garanties équivalentes ou non avec les difficultés qu'on peut avoir sur cette notion de garantie. Si oui, possibilité de mettre à jour ces dispositions. Quand on vous dit possibilité de mettre à jour ces dispositions, c'est quoi? C'est à minima d'acter. Si vous souhaitez les maintenir et que vous les considérez équivalentes, que l'ensemble des organisations syndicales, ou en tout cas les organisations syndicales majoritaires, considèrent que les accords d'entreprise contiennent des garanties équivalentes pour limiter tout au maximum les débats sur ce sujet. Et si vous n'avez pas de garantie équivalente, ça veut dire application de la CCN unique, avec des questions qui peuvent d'ailleurs se poser sur la dénonciation. Je me dis globalement, je considère que je n'ai pas des garanties équivalentes, mais j'ai tel point dans mon accord où j'ai des garanties supérieures. Bah, j'ai quand même intérêt, compte tenu de la difficulté d'interprétation sur cette notion de garantie équivalente, probablement à mettre un terme à mon accord d'entreprise pour éviter tout litige vis-à-vis d'un salarié ou d'une organisation syndicale qui devrait dire oui, mais là vous étiez supérieur, donc ce point-là, puisque moi je considère que vous devez segmenter l'approche par garantie, doit être maintenu. Donc vous voyez, c'est tout cet arbre des causes et toute cette analyse qu'il faut réaliser. Et puis on a les chantiers à mener sur le bloc 3, hein, donc qui relèvent prioritairement de l'accord d'entreprise. Donc là, de la même manière, la clé d'entrée, c'est le comparatif entre la convention collective unique et les accords d'entreprise. De la même manière que tout à l'heure, deux sous-options, j'ai des accords d'entreprise sur ces thèmes, et là, ils continuent à s'appliquer en lieu et place de la convention collective nationale, ce qui n'interdit pas, à notre sens, de se poser des questions. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un intérêt social ou stratégique à faire évoluer ces dispositions, notamment au regard des nouvelles dispositions de la convention collective unique? C'est-à-dire que, est-ce que je peux avoir un problématique de compétitivité parce que tel ou tel sujet n'est pas bien pris en compte dans mes dispositions internes, alors même qu'il y a des avantages dans la convention collective? Ou à l'inverse, est-ce que j'ai intérêt à accentuer les dérogations sur un certain nombre de points? Et puis, deuxième situation, je n'ai pas d'accord d'entreprise sur les thèmes de la convention collective. Dans ces cas-là, d'un point de vue juridique, qu'est-ce qui se passe? C'est l'application directe de la convention collective unique, sauf s'il vous apparaît nécessaire d'engager des négociations pour aboutir à la conclusion d'un accord d'entreprise pour déroger aux dispositions de la convention collective. On va prendre un exemple basique. Vous avez maintenant dans la convention collective nationale une contrepartie minimale au temps d'habillage et déshabillage qui n'existait pas. Exemple très basique, très concret, très main dans le cambouis. Est-ce que, au regard de vos dispositions conventionnelles et de votre stratégie d'entreprise, vous souhaitez ou non appliquer cette contrepartie au temps d'habillage ou de déshabillage? Si la réponse est non, vous avez la possibilité d'avoir des négociations dans le périmètre de l'entreprise pour ne pas appliquer cette disposition et appliquer, le cas échéant, un autre avantage X ou Y. Donc, c'est toute cette réflexion que vous devez mener pour définir si oui ou non il y a lieu d'adapter aux dispositions d'entreprise, et puis aussi probablement pour éviter le millefeuille. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il y a des nouvelles dispositions dans la convention collective nationale, que vous avez des dispositions spécifiques sur d'autres sujets, et que ça a conduit à un enchevêtrement qui n'a pas de sens, il y a aussi la réflexion sur votre statut collectif global avec les éventuelles adaptations à apporter, hein. C'est vraiment un chantier global avec une vision d'ensemble qui doit être menée. Donc, juste pour terminer sur les adaptations, sur les modalités pratiques, hein, mais que vous connaissez, hein, les solutions que vous avez pour adapter vos accords d'entreprise, c'est la révision, selon les modalités classiques de révision des accords collectifs, hein, qui est évidemment l'option privilégiée, qui doit être consensuelle, mais à un moment, il va falloir vous poser la question de savoir, est-ce que j'ai une vraie chance, dans le cadre d'une négociation d'entreprise ou de groupe, compte tenu de mon contexte social, compte tenu de mon contexte de représentativité, compte tenu de mes échéances, hein, parce que je pense que c'est très important dans votre calendrier, est-ce que j'ai un renouvellement du CSE, à quelle date, à quel moment, par rapport à ça, je cale mes élections, sachant que la majorité d'entre vous, compte tenu de la mise en place du CSE, vont avoir des élections dans cette période, mais simplement, est-ce que j'y crois? Est-ce que c'est possible d'aboutir à une révision? Et qu'est-ce que je dois mettre, le cas échéant, sur la table pour escompter y arriver? Ou est-ce que je suis dans un contexte social qui fait que, de toute façon, bah, la révision va être extrêmement complexe à obtenir? Et du coup, se pose la question d'une éventuelle dénonciation, hein, qui est éventuellement, effectivement, une solution plus radicale, avec un délai de survie, ayez-le à l'esprit, hein, parce que 1er janvier 2024, bah, il faut rétropédaler de 15 mois si vous voulez que les effets de votre dénonciation soient totalement effectifs. Donc, ces choix-là, c'est la définition du rétroplanning, c'est la définition de la stratégie sociale, et ça dépend, bah, du climat de votre entreprise, du délai que vous souhaitez pour mettre en place les nouvelles mesures, parce qu'après, peut-être qu'on peut se dire, on regarde certaines dispositions, bah tant pis, sur la prom 2024, je vais maintenir mes dispositions d'entreprise, à supposer qu'elles restent, ou est-ce que je veux dire, applicables en pratique. Et puis, il faut aussi vérifier les dispositions spécifiques de vos accords, puisque dans certains cas, même si c'est assez rare en pratique, je peux avoir des dispositions conventionnelles qui prévoient des délais plus longs, notamment en matière de dénonciation. Et il y a effectivement, hein, comme vous le voyez, mais je pense que vous le saviez, un gros chantier. Donc, pour avoir échangé d'ores et déjà avec certains d'entre vous sur des sujets, il peut y avoir un réflexe ou la pensée, oh là là, quel boulot. En effet, il y a un gros boulot. Mais du coup, ce gros boulot, il devra être fait quoi qu'il arrive. Et il faut probablement prendre ce qui peut s'apparenter parfois plus comme une contrainte, comme une opportunité, puisque de toute façon, ce chantier doit être mené. Et donc, c'est aussi l'occasion bah de réfléchir, de réformer le statut social pour le mettre au goût du jour, au goût des enjeux auxquels vos entreprises et vos groupes ont besoin de répondre. Et ça va nécessiter, en effet, une remise à plat et une projection pour définir et adapter l'ensemble de vos dispositifs. Donc il faut se saisir de ce sujet et le mettre en perspective sur également l'attractivité et la force de frappe que ça va pouvoir donner à chacun de vos entreprises et aussi la simplification, puisque à terme, vous aurez quand même un dispositif conventionnel si tout est bien travaillé, qui sera plus simple que ce qu'il n'était aujourd'hui avec tout cet enchevêtrement qu'on connaît toutes et tous et qui est parfois un peu compliqué à piloter.